RCF. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais.
Il suffit de faire quelques recherches sur Internet pour mesurer à quel point il est facile aujourd'hui de trouver des offres multiples pour participer à des cérémonies dites chamaniques. Plus besoin de partir en Sibérie ou au Pérou, près de chez vous, idéalement dans la nature, vous pouvez être initié au langage des tambours ou être invité à chercher votre animal totem. Denise Lombardi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, docteur associé au laboratoire Groupe Société Religion et Laïcité, en lien avec le CNRS et l'École pratique des hautes études. Exactement. Vous publiez aux éditions du CERF le néo-chamanisme, une religion qui monte. Point d'interrogation. Alors, ça fait bientôt une vingtaine d'années que vous consacrez votre travail à l'étude du chamanisme. Alors, d'abord, comment a démarré cet engouement en Europe pour le chamanisme ?
Alors, cet engouement en Europe, ça a démarré pendant ce qu'on appelle la contre-culture américaine. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a toute une augmentation des spiritualités, ce qu'on appelle maintenant nouvelle spiritualité ou spiritualité contemporaine.
Donc les années 60-70.
Oui, 60-70, c'est plus ou moins les années de la contre-culture, et c'est ce qu'on appelle New Age. Mais comment ça a pu avoir ce succès? Parce qu'en effet, en Europe surtout, il y avait toute une tradition ésotérique sur laquelle ces nouvelles dites nouvelles spiritualités se sont ancrées, j'oserais dire. Et c'est à partir de ces moments-là qu'on voit bien que la spiritualité reprend beaucoup de plus de l'ampleur. Une spiritualité, bien sûr, qui doit passer à travers la corporéité, des exercices, des éléments à faire, mais surtout une spiritualité toujours qui réside dans un ailleurs, par exemple. Une spiritualité qui est reliée à une idée d'altérité qui doit être lointaine, indigène. Mmh. Et c'est le moment des grands voyages. Avant, c'était vers l'Inde. Et après,
mais
ça commence...
Maintenant, c'est vers le Pérou,
voilà,
ou c'est
exactement
la Sibérie.
Et il y a aussi, si je peux me permettre, c'est à travers les livres, c'est-à-dire que pendant les années 2000, contre la deuxième vague des contre-cultures, globalisation, et la grande mouvance spirituelle, ça se déplace vers l'Amérique du Sud, en suivant Castaneda, c'est-à-dire
Carlos Castaneda.
Ça va toujours avec la littérature.
Alors, définition déjà, qu'est-ce que le chamanisme? Et puis après, on parlera du néo-chamanisme.
Alors, le chamanisme est une pratique spirituelle, n'est pas une religion, comme on dit Robert Damaillon, qui est la majeure chercheuse sur le chamanisme, est un terme qui vient de la Sibérie. Et a été, comment ça se dit en français, a été créé presque de toutes pièces par des missionnaires.
Le mot chamanisme a été créé
voilà, de toutes pièces par des missionnaires en 1672, voilà, pour décrire des experts rituels locaux qui bougeaient avec la partie inférieure du corps, en opposition avec les prêtres qui restaient d'une manière solennelle sur l'autel. Et les chamans étaient celui qui était capable de rentrer en communication avec les esprits, c'est-à-dire qu'il y a toute une cosmologie qui va avec, des esprits qui étaient censés causer des malheurs. Ou sinon, les chamans pouvaient aussi contacter, pour ce qui concerne la Sibérie, des esprits qui aidaient à la chasse.
En effet. Donc pour la chasse, pour la guérison
également.
Pour la
guérison de l'individu. Mais c'était un phénomène social pour de petites communautés. C'est-à-dire, était lié, vraiment ancré à une communauté spécifique.
On dit que ce sont les pratiques des chasseurs-cueilleurs du paléolithique, que c'est très très ancien comme pratique.
Alors là, par contre, moi je suis un peu douteuse de ça. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend Pastoreau, qui a fait des analyses très importantes sur les peintures, si on regarde les peintures rupestres, les grottes de Lascaux, bien évidemment qu'il y a cette figure de sept personnages au milieu des bisons, des cerfs et tout ça. Mais de là à dire qu'il s'agit vraiment d'une religion primordiale, sincèrement,
j'ai douté. Alors, c'est un autre débat. Alors, Denise Lombardi, qu'est-ce qu'on appelle le néo-chamanisme?
Voilà. Pour ce qu'on appelle le néo-chamanisme, ça fait, désormais, selon moi, ça fait 20 ans que j'étudie les phénomènes, ça doit dater d'une au moins les années 80-90, a eu les succès majeurs à travers les pratiques proposées par Michael Arner, qui est un anthropologue qui a fondé les Core Shamanism, qui a constitué aux États-Unis la Foundation for Shamanic Studies, c'est-à-dire qu'il a vraiment codifié une forme de chamanisme adaptée aux Occidentaux. Cet anthropologue, il avait fait des études pendant les années 50-60 au Pérou, en Équateur, avec les Jivaros. Les Jivaros étaient connus pour être ceux qui coupaient la tête aux ennemis et la rétressaient. Voilà. Et eux, ils avaient toute une cosmologie assez compliquée. C'était une cosmologie animiste. Et pour rentrer en contact avec les esprits qui peuplaient leur milieu, ils prenaient de l'ayahuasca. Et Arner fait l'expérience, il rentre aux États-Unis, il est à l'époque enseignant à la UCLA, et il commence à élaborer une forme de chamanisme qui pourrait être adaptée aux exigences des Occidentaux en général. Et il enlève la prise des psychotropes et substitue la prise des psychotropes avec les sons du tambour. Parce que selon lui, c'était les sons du tambour qui devraient changer les ondes du cerveau et les gens devraient se sentir...
Pour vous, plutôt en Sibérie.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que ce qu'il fait, lui, à cette époque-là, la chose importante à souvenir, c'est qu'il y a la traduction des œuvres « Les chamanismes et les techniques archaïques de l'extase » de Mircea Eliade en anglais, et la diffusion des bouquins de Castaneda. C'est-à-dire que la confluence de Michael Arner et les Jivaros, les écrits de Castaneda et les écrits de Mircea Eliade, qui était un historien des religions, pas un anthropologue, forme toute cette cosmologie un peu bricolée qui forme le néo-chamanisme.
L'entretien de la semaine. RCF.
Alors Denise Lombardi, vous qui étudiez ce phénomène de l'extérieur comme une anthropologue, comment expliquez-vous le succès que rencontre aujourd'hui le néo-chamanisme en France, puisque dans votre livre vous dites qu'on ne sait pas très bien, mais on évalue à peu près à 1000 chamans aujourd'hui organisent des sessions et qui attirent des milliers de personnes.
Mais alors, moi j'ai fait une sorte d'estime en regardant un peu sur Internet, je suis inscrite aux différents mailing lists, mais c'est assez compliqué de dire les nombres parce qu'il n'y a pas les bourreaux des colocations des chamans, c'est-à-dire c'est presque impossible, parce que les gens commencent souvent en tant que patients, j'oserais dire, pour devenir à leur fois chamans, c'est-à-dire c'est des parcours, certains suivent la Foundation for Shamanic Studies, mais d'autres se construisent leur propre parcours personnel. Et il s'agit d'une pratique spirituelle à visée thérapeutique.
Vous utilisez le mot pratique spirituelle.
Oui, à visée thérapeutique, c'est-à-dire qui met en œuvre un savoir dit indigène, c'est-à-dire est plutôt une pratique spirituelle, mais qui a les gens recherchent une forme thérapeutique.
De connaissance de soi.
Des connaissances de soi, mais aussi, c'est beaucoup plus complexe de ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que l'effet qu'il y a cette mise en communication avec ces entités qui sont bien évidemment construites au moment des séances, mais cette figure de l'animal totem, une entité qui a certaines caractéristiques, qui continue, qui s'intègre dans la vie du patient. Selon moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'est-à-dire que les gens, surtout quand ils ont des soucis à niveau psychologique, mais les malheurs qui peuvent toucher tout le monde, et on ne parle pas des choses énormes, mais c'est, je sais pas,
des divorces, des pertes de travail,
des deuils, des choses comme ça. Bon, souvent, on tombe dans une sorte de détresse face à laquelle on essaie d'aller mieux. Et les pratiques chamaniques font vraiment l'office aussi, parce que si on continue un peu le discours, on voit bien qu'en France, il y a un problème d'accès, je sais pas, aux services de psychiatrie, aux services
des soins.
Et les gens commencent à se tourner vers des pratiques alternatives.
Alors, bien sûr, l'organisme de ce qu'on appelle la Mividule qui met en garde contre les dérives sectaires s'intéresse particulièrement au chamanisme.
Ah oui, parce
qu'il y a pas mal de dérives sectaires aussi dans ces mouvements-là.
Déjà, dérives sectaires, c'est assez risqué. Selon moi, nous ne sommes pas vraiment dans ce type de discours-là. Car pour suivre un chaman, il n'y a rien que de plus simple de taper sur Internet. C'est jamais des choses vraiment restreintes avec, par exemple, un langage, une initiation. Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus basique. Il faut pas avoir, je sais pas, quel type d'attitude pour suivre. Et selon moi, ce serait beaucoup plus intéressant pouvoir faire vraiment de la recherche sur ces sujets-là que de dire « Ah non, c'est des sectes ». Pour ce qui concerne mes recherches, sincèrement, je n'ai jamais entendu parler d'abus d'une manière ou d'une autre.
C'est pour ça que vous écrivez dans votre livre « Mais en tout état de cause, j'estime, à l'instar de nombreux collègues, que taxer les pratiques chamaniques de sectaires constitue une attitude à courte vue ».
Oui, parce que selon moi, c'est beaucoup, beaucoup plus important de voir ce type de pratiques dans la société contemporaine, dans la liberté des gens qui ont de croire et dans la recherche d'un besoin thérapeutique, plutôt que de dire « c'est une secte, point barre et... ». On arrête là-dessus.
C'est pour combler le désenchantement du monde, ce chamanisme?
Ah oui. c'est d'un côté les désenchantements du monde, mais là, c'est une façon de se réenchanter au monde. Mmh. En effet, c'est la création, c'est ce que je dis aussi dans un des chapitres, de la création des espaces sacrés. C'est-à-dire, c'est une sorte de portabilité du chamanisme. Les gens apprennent pendant les séminaires chamaniques, qu'est-ce que c'est les rituels, les tambours, les purifications avec la sauge. Et ils rentrent dans cet espace sacré qui est créé, à proprement dit, pour le temps d'un séminaire. Et ils peuvent refaire la même chose chez eux. Mmh. C'est-à-dire, il n'y a pas une historisation derrière, comme ça pourrait être l'église qui est bâtie dans un lieu sacré. Pas du tout ça. Chacun recrée son sacré.
Merci beaucoup, Denise Lombardi. Je renvoie à votre livre, Le néo-chamanisme, une religion qui monte, point d'interrogation, que vous avez publié aux éditions du CERF.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Thank you.